Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Aujourd'hui, nous terminons notre série concernant quelle est notre vocation céleste. Et donc, c'est l'étude numéro 16, la cinquième partie. Et nous lisons sur le 16e point, qui est le souverain sacrificateur de l'Israël de Dieu? S'il vous plaît, ouvrez votre Bible dans le Nouveau Testament, Saint Jean, l'évangile de Saint Jean, chapitre 13, versets 1 à 16. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour Jésus de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Pendant le souper, le diable, ayant déjà mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, de le trahir. Jésus, qui savait que le Père lui avait remis toutes choses entre les mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta son vêtement et, ayant pris un linge, il s'en ceignit. Ensuite, il remplit d'eau le bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Ensuite arriva Simon-Pierre qui lui dit « Comment, toi Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Jésus lui répondit « Tu ne sais pas maintenant ce que je fais. Mais tu le sauras plus tard. » Pierre lui dit, « Alors, tu ne me laveras jamais les pieds. Non, non, non. » Jésus lui répondit, « Vois-tu, Pierre, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Aha! Alors Simon-Pierre a compris. Il dit, « Seigneur, non seulement lave-moi les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui répondit, « Celui qui s'est déjà baigné n'a plus qu'à se laver les pieds, car il est entièrement purifié. Or vous êtes purs, mais... » Non pas tous, car il savait quel était celui qui le trahirait. C'est pour cela qu'il a dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur avait lavé les pieds, il reprit son vêtement et s'étant remis à table, il leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'envoie. » Saint Jean, chapitre 13, versets 1 à 16. Si l'espace pouvait nous le permettre, je vous demanderais de prendre l'Ancien Testament et nous pourrions lire ensemble quatre passages qui sont liés à la construction et à l'établissement de la cuve dans le parvis du tabernacle. Nous nous souvenons certainement que le Seigneur avait ordonné à Moïse de faire une cuve d'airain qui devait être placée au centre du parvis. Elle devait être remplie d'eau et les prêtres devaient y laver leurs mains et leurs pieds avant d'entrer dans le lieu saint. Bien que cela ne soit pas dit, il est plus que probable qu'ils se lavaient les pieds l'un l'autre. Qu'il en soit donc ainsi ou non, et je pense que c'était vraiment le cas, eh bien cette cuve d'airain était destinée à un lavage comme celui-là, en relation avec le sacrifice. Donc, ici, dans notre chapitre 13 de Saint Jean, le Seigneur Jésus agit dans la capacité d'un prêtre dans le 17e chapitre. Là se trouve ce que l'on appelle universellement la prière sacerdotale du Seigneur Jésus. Il y a dans cette prière beaucoup de pensées qui découlent du 13e chapitre. Sanctifiez-les par ta vérité. Je répète, il est dit sanctifie-les par ta vérité. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Versets 17 et 19 du chapitre 13. Nous voyons ainsi dans le chapitre 13e, le prêtre prendre, on voit le prêtre prendre l'eau et on le voit laver les pieds de ses frères. Ses frères qui sont les prêtres. Il le fait à la lumière d'un jour qui vient, car il dit, tu ne sais pas maintenant. Tu ne sais pas maintenant ce que je fais, mais tu le sauras plus tard, verset 7. Et il fut bien compris plus tard que tous les enfants de Dieu sont des prêtres. Oui, tous sont appelés à ce ministère sacré du sacerdoce. Toi, le compagnon, toi le disciple, toi Diva de Vera, missionnaire de Jésus-Christ, et tous les autres fidèles serviteurs de Dieu. C'est un sujet très vaste, et nous ne pouvons faire autre chose que d'en déclarer la vérité et de nous arrêter à cela pour le moment. Pardon. Quel est le cœur même de ce chapitre? Eh bien, il se trouve au verset 8e, où Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, ça veut dire, si je ne te lave pas les pieds, eh bien, tu n'auras point de part avec moi. Tu n'auras point de part avec moi. » Nous revenons ici à notre mot de la lettre aux Hébreux dont la traduction exacte est compagnon. J'ajoute disciple. Nous sommes devenus compagnons de Christ. Ces mots de part avec moi, de part avec moi, ces mots viennent de la même racine que ce mot compagnon. Jésus dit ici exactement « Si je ne vous lave, vous ne pourrez jamais devenir mes compagnons. Ce sont ceux auxquels j'ai lavé les pieds qui sont mes compagnons dans la voie céleste. » Les compagnons de Jésus doivent donc avoir les pieds propres. Dans sa prière, Jésus montre très clairement ce que cela signifie. Il dit, selon Saint Jean, chapitre 17, verset 16, il dit « Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde moi-même. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te demande de les préserver du mal. » Johannes, Saint Jean, chapitre 17, verset 15. Les compagnons de Jésus sont donc ceux dont les pieds sont symboliquement séparés et purifiés du monde. Ce monde est sous une malédiction, sous le jugement de Dieu. C'est un monde mauvais. Et le Seigneur ne désire pas que ses compagnons soient emprisonnés par lui. Son œuvre à notre égard consiste donc à nous en séparer. Les pieds signifient un contact avec la terre, et le Seigneur Jésus veut rompre ce contact en ce qui concerne ses compagnons. Si nous voulons être vraiment les compagnons, les disciples de Christ, il nous faut être délivrés de ce monde présent mauvais. Le contact avec lui signifie mort et souillure. C'est un monde opposé totalement au Seigneur Jésus. Le Seigneur dit ici, dans cet acte symbolique, « Mes compagnons ne sont pas de ce monde. » Il a accompli en lui-même, et cela une fois pour toutes. Il y a naturellement en cela une signification beaucoup plus grande que ce dont il est possible de parler pour le moment. Mais nous savons tous combien cela est vrai. Jésus ne nous a pas enlevés du monde. Nous sommes ici, malheureusement, et environnés de souillure. C'est en vérité un monde pécheur. Le Seigneur Jésus veut nous en délivrer et il a accompli l'œuvre par laquelle nous pouvons être séparés de tout ce qu'il renferme de mal. Cela nous ouvre tout le sujet de la sanctification. Mais pour notre but, cela explique tout simplement ces mots de Hébreux chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, frères et sœurs qui sont sanctifiés, ce qui signifie qu'ils sont séparés pour Dieu, tels sont donc les compagnons de Christ et de la vocation céleste. Mais le Seigneur Jésus a aussi institué un ministère pour ses compagnons. Il a dit dans Johannes, dans Saint Jean chapitre 13, verset 15, « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Saint Jean chapitre 13, verset 15. Il dit, en d'autres termes, « Il faut vous aider l'un l'autre à rester pur de l'esprit de ce monde. » Les mots qui expliquent cela sont « frères et sœurs ». Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui avez l'Esprit Saint, redressez-le dans un esprit de douceur, et ne l'écrasez pas, en plus, avec votre pied. Galates chapitre 6, verset 1. L'humilité de Jésus dans cet acte offensait notre cher apôtre Pierre. Comment ? Toi, le Seigneur et Maître, te mettre à genoux pour me laver les pieds à moi ? « Oh, je ne peux pas penser à cela. Je ne suis pas... Et quand même, je ne suis pas aussi pur que toi. Je ne puis pas te permettre de t'humilier, toi, mon maître, mon sauveur, mon seigneur, de cette manière-là. Or, il est dit, vous qui avez l'esprit de compassion, redressez-le dans un esprit de douceur ou d'humilité. Donc, vous et moi, nous devons apprendre cela davantage. Oui, c'est un ministère spirituel qui est très nécessaire. Il y a des groupes de chrétiens dans ce monde qui pratiquent cela littéralement, ça existe. Et ont une part dans ce service qui consiste à se laver les pieds les uns aux autres. Nous ne discuterons pas et nous ne chercherons pas s'ils ont tort ou s'ils ont raison. Personnellement, je pense cependant que l'on peut laver les pieds de quelqu'un littéralement sans même, peut-être, sans même le faire spirituellement, avec une véritable humilité et avec un véritable amour. On peut faire un sourire à quelqu'un. Oh oui, madame, oh qu'est-ce que c'est merveilleux, c'est sublime. Et ce sont des mots habiles de ceux qui savent bien parler. Mais ça ne vient pas du cœur. On peut laver littéralement les pieds de quelqu'un et s'en aller ensuite, même pour parler de ses fautes, de parler de ses faiblesses à quelqu'un d'autre. Je pense que nous sommes trop souvent accoutumés à montrer la boue, la saleté, qui se trouve sur les pieds de quelqu'un, au lieu de les enlever, au lieu, vous avez compris ce que ça veut dire, au lieu de faire le contraire, de salir cette personne. Oh, nos critiques et nos condamnations à l'égard d'un autre ou d'une autre, il n'est pas nécessaire d'être un expert pour voir l'impureté spirituelle des hommes et pour voir le contact du monde sur eux. Chacun peut voir ainsi leur faute. Mais qu'allons-nous faire? Allons-nous parler d'eux et de toutes leurs fautes? Allons-nous les faire voir à d'autres, les avoir toujours en vue, ressasser toujours, oh oui, tu es allé un jour à la cave où il y avait beaucoup de confitures et tu en as ouvert un et tu as tout mangé et cela en cachette. Et puis de ressasser cela sans arrêt, rappelle-toi quand tu as fait cela. Et pourtant la grand-mère avait interdit de le faire. Permettre que notre attitude à leur égard soit influencée par leur faute. Par leur faute. À la place de les aider, à la place de voir que le bon côté, car il n'y a pas que le mauvais côté. Je parle pour moi-même. Si nous lisons sérieusement les saintes évangiles, nous verrons que les disciples avaient beaucoup de boue sur leurs pieds eux-mêmes. Rappelez-vous, ils se sont même querellés afin de savoir lequel d'entre eux serait le plus grand dans le royaume des cieux. Et ils s'efforçaient d'arriver à la première place. Tout cela C'est en somme une histoire assez pénible. Ils avaient beaucoup de fautes et de défauts. On pourrait croire qu'ils étaient tous sans défauts. Non, non, non. Leurs pieds étaient en vérité tachés par ce monde, comme nous. Mais que nous est-il dit ici de l'attitude de Jésus? Des hommes tels qu'ils étaient, et cependant, Jésus a aimé les siens qui étaient dans le monde. Il les a aimés jusqu'à la fin. Saint Jean chapitre 13, verset 1, il les a aimés tels qu'ils étaient. Et pour prouver son amour, il s'humilia, il enleva le vêtement de sa gloire et il prit la forme d'un esclave. Il se ceignit d'un linge, ça c'est le symbole du service humble. Il ne dit pas « Oh, combien de boue, quelle saleté vous avez sur vos pieds, affreux !» Non, il a enlevé tout cela. Oui, Jésus enlève tout ce qui est pas très propre en nous. Et il dit ensuite, je vous ai donné un esprit, un exemple, afin que vous puissiez faire comme je vous ai fait. Saint Jean chapitre 13, verset 15. Vous êtes donc prêtre devant Dieu, vous. Prenez donc l'eau de la cuve et lavez-vous les pieds l'un à l'autre. Vous ne pouvez être que de cette manière les compagnons, les disciples du lieu saint et de la vocation céleste. Avons-nous remarqué, et nous allons terminer, qu'il y a vraiment une bénédiction attachée à cet acte? Et cette bénédiction se trouve au verset 17e, où il est dit, si vous savez ces choses, vous êtes bienheureux, pourvu que vous les pratiquiez, pourvu que vous les pratiquiez. Il y a donc une bénédiction sur ce fait de nous laver les pieds les uns aux autres. Même si c'est du domaine spirituel, avec humilité, avec gentillesse, avec amour et compassion. Je voudrais vous dire, ou même lire, un témoignage merveilleux, et ce témoignage n'est pas unique en son genre. Il y en a d'autres. Vous qui écoutez, parmi vous, il y en a, comme pour moi, des témoignages qui sont merveilleux. Donc, pour terminer notre série que nous avons eue ensemble maintenant, j'aimerais donc, comme je l'ai dit, vous donner le témoignage d'un athée qui est 100% convaincu, mais qui était 100% convaincu d'être athée, qui était convaincu. Connu pour ses nombreux écrits, Erik Emmanuel Schmidt a consacré la nuit de feu à sa conversion dans le désert du Sahara à l'âge de 28 ans. Voici ce qu'il dit. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour évoquer mon expérience spirituelle dans le désert? Pourquoi avoir attendu si longtemps. Ensuite, il dit, j'ai longtemps cru que c'était une expérience intime, personnelle, singulière, qui ne concernait que moi. Eh bien, j'avais bien tort. Aussi, j'ai mis du temps, car je n'étais pas prêt à vivre cette expérience. J'étais un athée paisible, mais solide dans son athéisme. Quand je suis entré dans le désert du Sahara, je ne cherchais rien, en tout cas surtout pas Dieu. Cette grâce est tombée sur quelqu'un qui n'était pas du tout prêt. Préparé, sans doute, car j'avais fait tout de même de la philosophie et je m'étais intéressé aux questions métaphysiques. J'ai mis du temps à lui laisser sa place au Seigneur. Il y avait sans doute une partie de mon esprit rationnel et relativiste qui renâclait. Mais petit à petit, cette partie qui veut nier, qui s'aime et qui veut s'enivrer de sa force, a fini par céder devant l'évidence de la révélation. Cela a donc pris des années pour que je devienne le croyant que je suis maintenant. Mais ce qui a précipité le mouvement, c'est la violence du monde actuel. Oh là là, ce monde qui retentit du vacarme d'abrutis, des dérangés qui tuent, qui massacrent, qui violent, tout cela au nom de Allah. J'ai moi-même tenté de refuser cette nuit, comme elle s'est présentée, une rencontre avec Dieu. Oui, j'avais moi-même voulu réduire cette expérience à simplement un phénomène physiologique ou psychologique. J'avais moi-même tenté plusieurs fois de refuser cette nuit comme elle s'était présentée, une nuit mystique, une rencontre avec Dieu. Donc non, 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 on ne me la fait pas. Aucune de ces objections ne tient. Les explications chimiques, physiologiques ne tiennent pas. Les explications psychologiques sont encore plus branlantes. Par paresse. Eh bien, oui, par paresse. J'aurais moi-même voulu réduire cette expérience pour conforter l'athée que j'avais toujours été. Et donc, quand certaines personnes m'objectent ces arguments, je les interroge sur leur paresse et je leur dis, vous ne voulez pas penser qu'il est tout de même possible de croire? Vous pensez que la vie de l'esprit est morte et qu'on ne peut pas avoir de surprise dans sa vie spirituelle. Mais d'où le savez-vous? Et si vous ne le savez pas, pourquoi tenez-vous tant à cette illusion? Je renvoie donc la question au questionneur. Comme le disait le fameux penseur Pascal, Dieu s'éprouve, mais Dieu ne se prouve pas. C'est ce que j'avais oublié en entrant dans le désert. J'avais, en effet, résolu le cas de Dieu. Il n'était pas visible pour le moment dans mon expérience. Pas productible par un simple raisonnement. Donc, il n'avait pas lieu d'être dans mon univers mental. Et j'ai finalement éprouvé Dieu dans le Sahara. Mais éprouver n'est pas forcément prouver. Je continue à garder un langage à la fois de croyant et d'homme rationnel. Et ceci dit, il me faut ajouter que croire n'est pas savoir. Éprouver Dieu, connaître Dieu par son corps et par ses sentiments, ce n'est pas vraiment connaître Dieu de façon scientifique qu'on puisse transmettre aux autres. On ne peut donc que témoigner d'une expérience. Notre époque souffre de ceux qui confondent croire et savoir. Les intégristes athées et religieux qui interviennent de façon violente parce qu'ils se croient être possesseurs d'une vérité et d'un savoir. Il me paraît très important que la foi et la raison soient humbles. La foi n'est pas une façon de connaître, mais c'est une manière d'habiter l'ignorance, et cela d'une façon de vivre le mystère de la foi. C'est énorme de croire, et c'est même extraordinaire. Mais d'un autre côté, j'appelle à la modestie de la raison. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas connaître Dieu par la raison que Dieu n'existe pas. L'absence de preuve n'est pas une preuve de l'absence. Comment expliquez-vous que l'intelligence et les mots ne permettent pas de saisir Dieu? Le langage est celui d'être fini et limité. On ne peut pas décrire l'infini. Le langage a été inventé pour décrire l'ordinaire, pas l'extraordinaire, pour expliquer le visible, mais pas l'invisible. Toute approche de la réalité divine est métaphorique. Ce n'est pas une infirmité, mais c'est une condition essentielle pour en parler. On peut s'approcher par le langage, exprimer ce qu'est une expérience de foi. On peut aussi arriver à exprimer ce que c'est l'absence de foi. J'ai cessé de tout vouloir dominer et de tout vouloir maîtriser. J'étais un intellectuel de notre temps, quelqu'un qui veut tout maîtriser par sa volonté, par sa raison, et qui ne supporte pas que quelque chose lui échappe. Mais cet homme qui voulait tout maîtriser était en déroute, car tout à coup, j'étais infiniment faible. Abandonnant tout idéal de maîtrise et de raison, j'ai pu laisser la place à l'expérience. Si je n'avais pas eu cette faiblesse, par où Dieu aurait-il pu entrer? Chers amis, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas connaître Dieu par la raison qu'il n'existe pas. Je pense que beaucoup de gens vivent des expériences extraordinaires, mais ils les mettent de côté. Beaucoup de gens sont envahis par le sentiment d'une présence extraordinaire, où tout d'un coup, ils aperçoivent un éclair de sens dans l'univers. Alors là, ils sont saisis par la beauté et par l'harmonie qui les entoure, ou par la lumière d'un sourire. Tout le monde vit des moments qui ont l'air, on peut dire, d'échapper paix au flux du temps, comme s'il y avait une percée de l'éternité. Et tout le monde met ça dans sa poche et à la périphérie de sa vie. Pourquoi ? Par paresse ? Par habitude ? Par conformisme ? Ou parce qu'il faudrait reconstruire toute sa maison intellectuelle pour intégrer ce qui vient de se passer. Excusez-moi de ce téléphone, mais je veux finir mon étude et je vous demande pardon de cette interruption malheureuse. J'aurais dû cacher le téléphone. Et le problème d'une révélation, voyez-vous, c'est qu'elle est une révolution. Les cartes tombent. Il faut brasser et il faut réapprendre à jouer. Et cela m'a pris des années. L'époque nous pousse à occulter tout ça. Le langage prédominant est matérialiste, pragmatique, rationnel, construit sur une espèce de préjugé intellectuel stupide qui veut nous faire croire que croire, ce n'est pas moderne du tout, que le progrès de l'humanité est de se débarrasser des religions, et que le progrès, c'est d'aller vers des sociétés vraiment athées. Cette philosophie de l'histoire, elle consiste à croire qu'il y a eu l'âge de l'esprit et que l'âge moderne est celui de l'athéisme et des robots. Cela me paraît une sottise totale. La question de Dieu est contemporaine à l'homme. Elle n'est pas contemporaine à une époque, mais à toutes les époques. L'homme vit avec cette question de Dieu. Quand les croyants se rencontrent, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Il n'y a pas non plus deux athées qui soient semblables. Chacun vit le mystère de la condition humaine à sa façon, avec sa propre histoire, avec ses propres aspirations, avec ses déceptions, ses enthousiasmes et avec ses rencontres. On ne se débarrassera ni de Dieu, oh non, ni des religions, et il n'y a aucune raison de s'en débarrasser. C'est consubstantiel à la vie humaine. Le problème qui guette l'homme depuis le XXe siècle et encore davantage au XXIe siècle dans lequel nous sommes, c'est l'orgueil démesuré. L'homme peut s'enivrer de ses progrès scientifiques et technologiques. Il peut s'enorgueillir de la domination de la planète qu'il est en train d'opérer et d'autres planètes, de la prise en charge de son destin. L'humanité a toujours été très satisfaite d'elle-même, mais elle a d'objectives raisons d'être très contente d'elle-même depuis la révolution industrielle et depuis l'invention des sciences il y a quelques siècles. Cet orgueil est cependant très trompeur. Il peut conduire à cette espèce de narcissisme vain qui nous fait penser que l'homme est au-dessus de toute la création, de toutes les créatures et même d'un quelconque créateur. Ce faisant, l'homme finit par oublier sa condition et il oublie de pratiquer la modestie et l'humilité qui doivent accompagner une vie d'homme. Alors oui, notre époque rend la foi difficile, mais en même temps nécessaire. Le christianisme est une force de résistance contre un monde totalement matérialiste qui est dominé par l'intérêt et par la recherche de l'argent. L'inspiration des évangiles est un contre-pouvoir plus difficile, mais aussi beaucoup plus nécessaire que jamais. Chers amis, comment pouvons-nous nourrir en quelque sorte cette foi au quotidien pour aujourd'hui? Eh bien, c'est elle. C'est la foi qui me nourrit. C'est la foi qui a pris sa place en moi. Une place énorme. Elle a changé mon rapport aux autres et au monde. Elle me donne une énergie incroyable. Le sommet de la liberté, c'est de dire oui et ne pas dire non. C'est de consentir, d'acquiescer et d'accepter. La vie m'oblige à courir, à penser à des choses stupides, à m'occuper de mes intérêts. Je vis parfois à distance de ma foi. Et ce n'est pas moi qui retourne vers elle. Mais écoutez la suite. C'est elle, la foi, qui me bouscule. La foi est beaucoup plus forte que moi. Ce n'est pas moi qui m'occupe d'elle, mais c'est elle qui s'occupe de moi. Chers amis, nous allons terminer par la prière. Je voudrais simplement vous dire que vous pourrez sûrement comprendre un peu que c'est un véritable miracle qu'à 89 ans, vous avez bien entendu, bientôt 90 ans, comme la fameuse reine d'Angleterre, que Dieu me permet, après avoir été plusieurs fois entre la vie et la mort, une longue histoire bouleversante et presque incroyable. Mais vous qui m'écoutez maintenant, vous n'êtes pas tous naïfs. Et vous savez très bien que c'est dû à un miracle que je peux vous parler comme je le fais maintenant à 89 ans. Et je voudrais vous dire que vous pouvez trouver, parce que j'ai constaté durant ma longue vie qu'il y a des millions de gens malades, malades psychologiquement et physiquement également. Alors, il y a des gens qui peuvent prier pour vous. Je vous dirai simplement que la collaboratrice, la pasteur Sabina Reichenbach, pasteur de l'église protestante de Genève, donc surtout de l'église des eaux vives à Genève, vous pouvez sûrement trouver son téléphone natal sur www.biblexplique.ch sur internet. Elle peut prier pour vous, ainsi que d'autres personnes telles que une missionnaire avec son pasteur et toute sa congrégation. Elle s'appelle Diva de Vera, rue des Cèdres 12, 1203, Genève. Donc, j'ai dit rue des Cèdres 12, 1203, Genève. Parce que prier pour les malades, c'est tout à fait ce que le Seigneur est venu pour sauver et pour guérir, pour délivrer. Et plus que jamais, dans les temps de pollution extrême, où même les aliments sont presque poisons, infectés d'insecticides, et j'en passe. Oui, donc tout cela gratuitement, parce que le Seigneur nous a donné gratuitement et nous devons rendre gratuitement. Tout cela peut vous paraître un peu obscur, voire même peut-être presque mensonger, mais tout de même vrai, car personnellement, j'aurais pas le droit de demander un centime à qui que ce soit, simplement pour le travail que je fais absolument bénévolement, à 89 ans, où vous pouvez donc trouver des centaines et des centaines de sujets bibliques que le Seigneur a mis dans mon cœur de faire, pas par moi-même, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Je voudrais prier avec vous maintenant, chers amis. Nous allons prier ensemble, et c'est dans votre cœur que vous allez répéter cette prière après moi. Prions. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que j'ai péché contre toi. Je suis condamné par ta loi à la mort éternelle. Car ta sainte parole dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et le salaire du péché, c'est la mort. Parce que j'étais coupable du péché, j'étais séparé de ta présence, j'étais perdu et indigne de ton amour. Je ne pouvais pas m'approcher de toi sans ce terrible sentiment de culpabilité. Mes péchés et mon incrédulité me condamnaient. Mais je comprends maintenant que Jésus est mort sur la croix pour moi. Oui, il a souffert à ma place. Je sais que nul crime ne peut être puni deux fois. Quand une dette est acquittée, cette dette n'existe plus. Il n'y a pas lieu de la payer une deuxième fois. Rien ne me sépare désormais de toi. Maintenant, Jésus-Christ, vis enfin en moi. Je peux paraître devant toi sans aucun sentiment de culpabilité, puisque tu m'as pardonné. Tu m'as admis dans ta famille royale. Je suis ton enfant. Tu es mon père. La justice est la mienne. Oui, c'est ta justice qui est devenue maintenant la mienne. Ta vie est maintenant ma vie. Ta nature est maintenant la mienne. Je suis à toi. Mes péchés ont été mis au compte de Jésus-Christ et il a payé, lui, tout le prix. Oui, sa justice est mise à mon compte et je suis enfin, maintenant, aujourd'hui, né de nouveau. Je me réjouis maintenant de l'abondance de ta justice que tu m'as donnée maintenant. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et Dieu voulant, demain matin, je commencerai une nouvelle série sur la prière, bien que j'ai fait, je crois, pas loin d'une centaine de CD sur la prière. Mais la prière, c'est la chose la plus importante. Et vous pouvez écouter sur www.bibleexplique.ch des centaines de CD sur le salut, ainsi que d'autres centaines sur la guérison, et beaucoup, beaucoup d'autres sujets 100% bibliques. À bientôt, à demain matin, Dieu voulant. Au revoir, mes très chers amis.